J'ai proposé ce sujet, une réflexion sur les conflits, parce que je crois que c'est un des éléments importants, bien que pas toujours joyeusement accepté, de notre existence. Et je voudrais que nous réfléchissions donc au conflit comme à un problème de vie qui se pose à chacun d'entre nous. Problème de vie qui se pose à tous les hommes et qui se pose aussi aux chrétiens. Cette idée de conflit, je crois, peut nous aider à mieux comprendre ce que doit être notre comportement dans le monde en tant que chrétien, pour la raison suivante. Je crains que, bien souvent, nous nous posions des questions sur notre vie d'une manière statique. Que faire dans telle situation? Qu'est-ce qui est bien ou mal? Qu'est-ce qui est permis ou défendu? Nous cherchons, pour voir clair, à faire différents compartiments dans notre vie et ayant chaque fois deux réponses, la bonne et la mauvaise, oui et non. Un peu comme des ordinateurs qui marchent sur le principe binaire, voyez-vous. On étudie des cas particuliers, on dit dans ce cas-là, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. À la limite, c'est ce qu'on appelle la casuistique, où tous les cas possibles sont envisagés à l'avance pour qu'on sache d'avance la bonne et la mauvaise réponse. C'était un peu ce que faisaient les pharisiens. Par exemple, en ce qui concerne le commandement du sabbat, ils avaient essayé de réfléchir à toutes les situations pour savoir exactement ce qui était travail et ce qui n'était pas travail. Autrement dit, ce qui était permis et ce qui était défendu. Et ils avaient une liste de cas. Certains manuels talmudiques juifs prévoient 39 cas de travail qui sont donc exclus le jour du sabbat. Parmi ces cas, il y a le fait d'allumer du feu. Donc, on fera la cuisine la veille au soir et on est en règle. Porter un objet d'un endroit à un autre. Ce qui fait dire, par exemple, à l'écrivain Roger Icor, dans son livre « Les eaux mêlées », où il raconte l'histoire d'une famille juive de Paris, que porter un mouchoir dans sa main le jour du sabbat est un péché, le porter dans sa poche, c'est une partie du vêtement, ça n'est plus un péché. Ceci peut nous faire sourire, mais je me demande si parfois nous n'avons pas la même tendance d'analyser des cas comme s'ils se passaient toujours exactement de la même façon, si tout était réglé d'avance. En réalité, la vie humaine ne se laisse pas enfermer dans des compartiments. Elle n'est jamais statique. Elle est toujours en mouvement. Et le mouvement, c'est un équilibre sans cesse remis en question. Mon prof de philo, autrefois, et ça remonte à loin, comparait souvent la vie à quelqu'un qui fait de la bicyclette. Faire de la bicyclette, c'est toujours perdre l'équilibre et le rattraper. On n'est jamais en équilibre fixe. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on ne peut pratiquement pas faire de surplace en bicyclette, à moins d'être très habitué, et encore, on est toujours en train de rétablir l'équilibre. La vie est faite d'équilibre rompu et rétabli. Et, enfin, la vie humaine, en tout cas, tout ce qui est vie, une chaise, un tabouret, c'est en place, ça ne bouge pas, ça reste là, ça ne pose pas de problème. Et en réalité, on doit s'en apercevoir quand on pense à la question que les pharisiens posaient à Jésus, mais qui n'est jamais posée dans le Nouveau Testament que par des adversaires du Seigneur. Est-il permis ou défendu de faire telle ou telle chose? Cette question suppose que ce n'est pas si simple, que si c'était simple, on ne poserait pas la question. Qu'en réalité, il y a quelque chose qui est venu compliquer la décision qu'on a à prendre. Et ce quelque chose, c'est un conflit. Ça peut être, dans certains cas, un conflit entre deux obligations. C'est par exemple ce qui se passe dans les évangiles à propos du sabbat. Lorsque, au début du chapitre 3 de Marc, dans la synagogue, on amène devant Jésus un homme à la main sèche, on lui demande « Est-il permis ou non de guérir cet homme le jour du sabbat ?» Vous avez un conflit entre deux obligations, celle d'observer le sabbat et celle de faire du bien, d'aider quelqu'un qui est dans une situation de détresse. Que va faire Jésus ? Vous avez donc, et c'est souvent ce qui se passe dans la vie, voyez-vous, on n'a pas à choisir entre du blanc et du noir, entre quelque chose qui est carrément mauvais et quelque chose qui est tout à fait bon, on a à choisir entre deux obligations, deux responsabilités. Jean-Paul Sartre en parle dans son livre « L'existentialisme est un humanisme », mais l'exemple qu'il donne me paraît intéressant et je voudrais vous le reciter. Il dit qu'un de ses étudiants, pendant la guerre, pendant l'occupation allemande, est venu le trouver en lui disant « Je voudrais que vous me disiez ce que je dois faire. Voilà, j'ai l'occasion de passer en Angleterre par l'Espagne, on m'a indiqué une filière, de rejoindre donc les troupes de la France libre pour venir libérer mon pays de l'occupation allemande. Mais, je vis avec ma mère, veuve, qui est à ma charge. Si je m'en vais, elle n'a personne pour la soutenir. Qu'est-ce que je dois choisir, ma mère ou mon pays ? Vous voyez le type de situation où aucune réponse réglée d'avance ne peut vous aider véritablement. Il y a une hiérarchie qu'il faut en quelque sorte décider soi-même entre deux obligations possibles. Mais même quand personnellement on est au clair sur la décision qu'on doit prendre et le chemin qu'on doit suivre, les choses ne sont pas si simples parce qu'on n'est pas seul à prendre des décisions. Et parce que souvent, nous nous trouvons confrontés à des conflits humains. Nous ne décidons pas dans le calme d'un cabinet de travail. Nous vivons en société et nos décisions ont des répercussions sur les autres. C'est en fonction des autres aussi qu'il faut décider. Il faut donc en tenir compte. Je prendrai encore un exemple biblique. L'apôtre Paul consacre un chapitre et 8 versets dans l'Épître aux Romains, les chapitres 14 et 15, le début du chapitre 15, à une question, est-ce qu'on a le droit, quand on est chrétien, de manger de la viande ? Et il s'agit certainement, dans le contexte païen de l'époque, de viande sacrifiée aux idoles, puisque les temples païens étaient les principales boucheries de l'époque. Les 9/10 de la viande qu'on pouvait acheter étaient de la viande qui avait été abattue dans des temples. Et Paul dit, un chrétien fort pense qu'il peut manger, un chrétien faible pense qu'il ne peut pas manger. Paul ne résout pas la question de savoir si c'est permis ou défendu. Il résout la question en disant, fais attention à l'autre. N'entre pas en conflit avec l'autre. Ne te mets pas à juger ton frère. Ne fais rien qui puisse faire du tort à ton frère. Voyez-vous, pour lui, la relation avec le prochain est finalement plus importante que de savoir si telle chose est permise ou défendue, dans l'absolu. Et on pourrait continuer longtemps. Nous vivons dans un monde où nous sommes constamment affrontés aux autres. La vie humaine est faite d'affrontements, de conflits. Le conflit n'est pas une situation anormale qui vient perturber un équilibre parfait comme nous aimerions le penser. L'équilibre n'existe pas. Le conflit est à tous les instants de notre existence. Et ceci, nous dit la Bible, est dû au péché. Le péché, c'est précisément la rupture d'un équilibre, d'une harmonie que Dieu avait voulu. Les premiers chapitres de la Genèse, qui nous parle de l'origine de l'homme, nous montre comment, par le péché, s'établit une rupture d'abord entre l'homme et Dieu. Une méfiance à l'égard de Dieu, Dieu a-t-il réellement dit, et la méfiance est forcément créatrice de conflits. Et puis ensuite, la décision de passer outre au commandement de Dieu pour prendre dans ses propres mains le bien et le mal. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Le résultat, c'est qu'après la faute, Adam se cache de Dieu. Et quand on se cache de quelqu'un, c'est qu'il y a conflit. C'est qu'il n'y a plus une relation harmonieuse. Mais aussitôt après, deuxième conséquence, la rupture de la relation harmonieuse entre l'homme et la femme. Dieu avait donné la femme à l'homme en disant « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis ». Littéralement, c'est-à-dire celle qui se tient devant lui, avec qui il peut avoir une relation de confiance et d'amour. Mais quelle est la première parole d'Adam quand Dieu l'interpelle dans le jardin ? C'est la femme que tu m'as donnée. Ça, c'est une cause de conflit. La femme cherche à retomber sur le serpent, mais dans la suite du chapitre, on nous dit, Dieu dit à la femme en particulier, « Tes désirs te porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi ». La convoitise de l'autre et la domination de l'un sur l'autre sont également des manifestations et des causes de conflit. Et Pour ensuite, chapitre 4 de la Genèse, l'histoire de Caïn et Abel, et ce n'est que le commencement d'une chose qui s'est mise en route et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Nous vivons dans une humanité de contradictions, de déchirements, de conflits, de luttes. Nous continuons à souffrir de ces conflits parce que nous sommes créés pour aimer, pour vivre dans la confiance et dans la paix les uns avec les autres. Mais cette confiance et cette paix sont constamment rompues pour toutes sortes de raisons que nous chercherons à analyser un petit peu plus tard. Le conflit, c'est le pain quotidien d'un monde pécheur. Mais je crois qu'il faut faire attention de ne pas se satisfaire de cette réponse, même si c'est la réponse fondamentale qu'il ne faut jamais oublier. Dire « c'est le péché », c'est souvent trop facile, parce que ça nous permet quelquefois de ne pas nous mettre vraiment en question. Qu'est-ce que vous voulez, c'est le péché, c'est fatal, quoi. On n'y peut rien. Au lieu de se demander, mais en quoi est-ce que le péché s'est-il manifesté dans mon comportement à l'égard des autres, voyez-vous? Et ce que je voudrais qu'on fasse, c'est aller davantage dans le détail que de brandir le mot péché, même si c'est la réalité, c'est ce qu'il y a derrière toutes les réalités que nous vivons. Mais il ne faut pas se contenter de brandir une idée générale, il faut essayer de voir ce qu'est la réalité concrète dans laquelle nous sommes, nous, engagés dans tel ou tel conflit. Heureusement, Dieu, dans son amour, n'a pas permis que les hommes vivent uniquement dans le conflit. C'est épuisant, les conflits. Et par quoi un conflit se termine-t-il? Par la victoire de l'un sur l'autre, généralement. C'est-à-dire par la prise de possession de l'un par l'autre. Ce qui représente une sorte d'anéantissement de l'un par l'autre, de négation du vaincu par le vainqueur. Ça apparaît nettement dans le cas de guerre, par exemple. Pensez au Cambodge aujourd'hui. Mais généralement, les hommes n'en arrivent pas là ou pas toujours là. Ils en arrivent là dans les conflits personnels. Il suffit de lire les faits divers dans les journaux. Ils en arrivent là dans les conflits sociaux, quelquefois, dans des révolutions. Pensez à tous les attentats au Pays Basque, par exemple. Ils en arrivent là très souvent, hélas, dans les conflits entre nations ou entre blocs. Mais l'apôtre Paul nous dit que Dieu a mis sur l'humanité des magistrats pour mettre un frein au mal et encourager le bien. Et l'humanité, pour éviter d'exploser dans la violence, se donne des lois que des hommes qui sont les magistrats, mais aussi les gouvernants, les chefs des nations, sont chargés de faire respecter. La loi nous fait passer, si vous voulez, du domaine du conflit et de la violence à l'état pur, au domaine de ce que j'appellerais l'échange. C'est-à-dire, si tu me donnes ça, je te donne ceci. Si tu ne me tapes pas sur la figure, je ne te donnerai pas de coup de pied au derrière. C'est manifesté, par exemple, dans le texte biblique bien connu, « œil pour œil, dent pour dent ». Cette phrase, il faut bien comprendre, est d'abord une limite à la vengeance. La vengeance est du domaine du conflit, bien sûr, à l'état pur. C'est-à-dire, tu ne prendras pas plus qu'un œil pour l'œil, plus qu'une dent pour la dent. C'est la loi intervient pour limiter l'affrontement. Vous comprenez? Un ordre est nécessaire dans la société pour que les hommes puissent vivre. Le conflit ouvert permanent est impossible. Et cet ordre, c'est ce que les magistrats sont chargés de maintenir dans la société, ce pourquoi la loi existe. Elle existe ainsi positivement et négativement. Négativement, c'est ce qu'on pourrait appeler le code pénal. Si tu fais cela, voilà quelles seront les conséquences pour toi. Mais ça existe aussi positivement. Hier soir, à Massy, à l'étude biblique, on s'est bien amusé. Ça arrive dans les études bibliques. On parlait du texte des Éphésiens où Paul donne des conseils aux maris et aux femmes quant à leur rapport réciproque. Ça existe aussi, les conflits entre maris et femmes. Et un des frères qui était là a dit avec une pointe d'humour: mais le mari a tout intérêt à respecter sa femme et à l'aimer parce que alors elle lui fait de la bonne cuisine, quelque chose comme ça. Ça, c'est l'aspect positif, voyez-vous. Si tu prêtes attention à l'autre, lui prêtera attention à toi. C'est un petit peu ce qui est dit dans la phrase qui se retrouve dans toutes les religions. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent. C'est le monde de la loi qui n'est que celui de la coexistence pacifique. Ça n'est pas encore la paix. Mais c'est quand même une grâce de Dieu pour permettre aux hommes de ne pas se détruire les uns les autres. Il faut bien comprendre cela. Mais ça n'est pas suffisant. Dieu veut que nous allions plus loin. Dieu veut que nous trouvions la paix et pas seulement la coexistence pacifique. Et ce que nous devons chercher ici, ce n'est pas simplement quelles règles nous imposer les uns aux autres pour que nous ne nous tapions pas trop fort sur la figure les uns des autres, mais comment parvenir à la paix. Les hommes politiques le cherchent depuis longtemps et depuis longtemps n'y arrivent pas. On peut dire, par certains côtés, il y a des progrès. Je pense que la démocratie est un progrès sur le totalitarisme. Pour la raison suivante, c'est que dans le totalitarisme, l'ordre règne par la domination et l'écrasement des uns par les autres. La démocratie cherche à établir un équilibre. Il y a une opposition, ce qui implique un conflit permanent. Tous les pays démocratiques sont les pays précisément qui reconnaissent l'existence d'une opposition, qui reconnaissent qu'il vaut mieux vivre dans le conflit qu'écraser l'adversaire et le faire disparaître. L'anéantissement de l'adversaire, c'est une solution possible à un conflit. Mais je voudrais donc que nous comprenions que dans un monde pécheur, le conflit n'est pas quelque chose d'anormal, d'inhabituel, c'est le pain quotidien. Le diable, diabolos en grec, ça veut dire le diviseur, celui qui se met entre pour séparer. C'est une des traductions possibles. C'est aussi le calomniateur. Mais est-ce que la calomnie, ce n'est pas précisément ce qui vient semer la zizanie? Certains d'entre vous connaissent sans doute l'album d'Astérix qui porte ce nom, Zizanie. Et c'est précisément en venant calomnier dans le petit village gaulois que la dispute, la division est semée. Le mot zizanie, c'est la transcription française du mot grec pour livret. Dans la parabole de l'ivraie, dans Matthieu 13, dans l'Évangile, ce que l'adversaire vient semer, c'est la zizania. L'œuvre du diable, c'est très exactement la zizanie. L'ivraie, la division. Et ça, c'est une conséquence du fait que l'homme a écouté la voix du tentateur au lieu de faire confiance à Dieu, que chacun prétendant connaître le bien et le mal s'érige seul en juge, ou comme dit aussi l'Évangile, chacun suit sa propre voie et par conséquent se heurte aux autres. Le propre de l'homme pécheur, c'est de considérer son intérêt, ce qu'il a à faire, en essayant de ne pas trop marcher sur les pieds des autres parce que les autres répondent en général, mais en ne tenant compte des autres quand on ne peut plus faire autrement, bien souvent. Il y a une image qui me semble assez bien illustrer la chose, c'est l'image d'un orchestre. Imaginez les musiciens d'un orchestre de chambre assis en demi-cercle autour du chef d'orchestre. Voilà qu'ils n'ont plus confiance dans le chef d'orchestre et qui décident tous de lui tourner le dos. Quel est le résultat? D'abord, chacun tourne le dos aussi aux autres, en même temps. Ensuite, ils peuvent tous être des virtuoses et jouer leur partition à merveille, ils ne joueront plus ensemble. Je crois que c'est une bonne image de notre humanité, qui est tournant le dos à Dieu, se tourne le dos les uns aux autres et est incapable de paix, d'harmonie, de vie commune. La rencontre d'autrui dans un monde pécheur est donc fréquemment, sinon toujours, un affrontement. Là aussi, je me permets de citer Jean-Paul Sartre qui disait à la fin d'une de ses pièces de théâtre « L'enfer, c'est les autres ». Mais la rencontre d'autrui implique toujours une menace pour notre existence. Dans une rencontre, quand je rencontre quelqu'un que je ne connais pas, je me demande toujours « Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là »« Est-ce qu'il ne va pas chercher à m'avoir ?» Je suis sur la défensive à son égard. Nous cherchons à connaître les autres, souvent pour pouvoir les manipuler. C'est vrai, par exemple, de celui qui professionnellement fait des études pour la vente, pour vendre. On lui apprend toutes sortes de trucs pour obtenir le résultat, pour manipuler les gens. Voilà le langage à tenir. Les ménagères de tel âge à tel âge, par exemple, voilà comment elles sont, hein, dans leur majorité. Donc c'est par là qu'il faut les attaquer. C'est une façon, si vous voulez, de connaître l'autre pour le prendre, pour l'avoir. Et on a toujours peur de se faire avoir, on est sur la défensive vis-à-vis des autres. Et c'est souvent qu'après une rencontre avec quelqu'un, on se dit « Ah, il m'a eu ». On se rend compte finalement qu'on a été utilisé par l'autre. Et quel est le résultat? On se défend. Et c'est ça l'affrontement constant de l'existence humaine, c'est une sorte de prise de pouvoir, de prise d'autorité sur l'autre. On essaie d'avoir barre sur lui, sans référence au Premier ministre, et on se défend pour ne pas se laisser avoir, et au contraire, que ce soit moi qui soit en position de force vis-à-vis de l'autre. Et ceci à tous les niveaux de l'existence humaine. Autrui, l'autre, le prochain, est dans une large mesure une menace à ma sécurité. Alors, il y a des existences, des moments dans l'existence où nous pouvons penser que cette menace est écartée. C'est quand on est certain de l'amour d'un autre. L'exemple le plus typique, là, pourrait être pris dans le domaine de la sexualité. Quand une jeune fille a confiance dans l'amour d'un jeune homme, elle lui laissera mettre le bras autour de l'épaule. Mais si moi je m'avise dans le métro de mettre les bras autour de l'épaule d'une jeune fille que je ne connais pas, je risque une gifle. Hein ? Pourquoi ? Parce qu'elle n'a aucune raison de faire confiance à mon amour, elle ne me connaît pas. Et généralement, quand un homme étend le bras vers une femme sans la connaître, sans qu'il y ait eu dialogue, sans qu'il y ait eu écoute réciproque, etc., c'est qu'il veut en profiter. Et la fille doit se défendre, non ? C'est souvent comme ça dans notre existence. Devant l'autre, nous sommes souvent angoissés. Savez-vous pourquoi, paraît-il, en Angleterre, on conduit à gauche ? Hein, vous me dites, ça n'a rien à voir. Mais il paraît qu'autrefois, c'était pour que, quand deux cavaliers se croisaient dans un chemin pas très large, chacun soit en mesure de tirer l'épée ou le pistolet du côté d'où pouvait venir le danger. Voyez-vous ? Alors en France, depuis la Révolution, on a renversé ça puisqu'on a prôné la fraternité. Malheureusement, on ne l'a pas vécu. Et tout est à recommencer, même si on conduit à droite. Mais c'est vrai que la présence de l'autre est souvent angoissante. Aujourd'hui, dans les grandes banlieues de la région parisienne, une jeune fille, ou en tout cas une femme âgée, qui rentre chez elle à la nuit et qui voit venir en face d'elle un groupe de jeunes, j'imagine qu'elle n'est pas très rassurée. Il y a beaucoup de situations où la présence des autres est angoissante. L'angoisse, la peur de perdre sa sécurité, ça fait que notre comportement en situation de conflit, en situation qui nous angoisse, qui nous inquiète, notre comportement n'est plus un comportement raisonnable. Parce que nous ne sommes plus mus par la réflexion, nous ne sommes même plus souvent capables de réfléchir. Vous avez peut-être vu quelquefois deux automobilistes qui se sont accrochés dans la rue, qui sont tous les deux angoissés parce que la belle voiture à laquelle ils tenaient tant, elle a reçu un nion. Et puis ils se disent, est-ce que l'assurance paiera ? Qu'est-ce que dira ma femme ? Etc. Ils sortent de leur voiture et commencent à s'invectiver. Ils perdent le contrôle d'eux-mêmes. Quand on voit quelqu'un perdre le contrôle de lui-même à cause de la colère, de l'angoisse ou quelque chose comme ça, quand on voit ça de l'extérieur, on est vraiment navré pour ces gens-là. On trouve ça ridicule bien souvent, hors de proportion. Mais pourquoi ? Parce que l'angoisse nous pousse toujours à dramatiser les situations, nous empêche de les voir comme elles sont. Et le propre du conflit, c'est ça. Un conflit nous empêche de voir les choses comme elles sont. Nous nous sentons directement impliqués. Nous ne sommes plus capables de jugement sain. Nous sommes mus non pas par l'intelligence de la situation, mais par l'affectivité, par des réactions viscérales bien souvent, des réactions de haine, de peur, de méfiance, etc. Et notre comportement devient un comportement qui n'est pas celui que nous adopterions si nous pouvions prendre le temps de réfléchir, de laisser s'apaiser l'angoisse et de nous dire qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme celle-ci. Quand on est dans un conflit, on ne se pose pas la question à froid. On réagit à chaud et nos réactions sont rarement des réactions intelligentes, disons. Il y a une citation que j'ai relevée dans un roman d'Agatha Christie. voyez que j'ai de bonnes lectures. Astérix, Agatha Christie, et il en viendra peut-être d'autres. Qui dit ceci. Pourquoi des hommes intelligents, bien élevés, instruits, des hommes qui ont le souci du prochain et de leur réputation à eux, se mettent-ils à faire des choses aussi aberrantes qu'écouter aux portes, ouvrir des lettres qui ne leur sont pas destinées? Pas un instant parce qu'ils pensent que ces choses-là sont justes ou permises, mais tout simplement parce qu'ils sont étreints par une angoisse qui les empêche d'agir autrement. Et je crois que c'est profondément vrai. Et en tant que pasteur, j'ai souvent eu l'occasion d'intervenir, d'être appelé dans des situations de conflit, et on s'aperçoit qu'il y a un moment où il est impossible de parler, parce qu'on ne vous écoutera pas. Il y a des blocages. Je voudrais dire, comme un élément secondaire dont il faut aussi tenir compte, même si ça n'est pas l'essentiel, la racine du conflit est toujours dans le péché, mais sous des formes qui peuvent varier énormément. Mais à côté de ça, il peut y avoir des circonstances aggravantes dont il faut aussi être conscient, dans une certaine mesure, pour essayer de les éliminer. Il y a, par exemple, l'entassement dans les grandes villes. Des études faites aux États-Unis disent que le taux de violence est directement en fonction, premièrement, de la taille de la ville, deuxièmement, de la hauteur des immeubles. Il y a eu récemment, dans ces derniers jours, là, dans plusieurs journaux, Le Monde et Le Figaro en ont publié, des articles sur la violence dans les collèges, en France, CES en particulier. Et de nombreux exemples ont été cités, en particulier des CES de Massy, qui est une ville de banlieue, où il y a un grand ensemble. Et puis, dans le Monde du dimanche, de la semaine suivante, il y avait une lettre d'un professeur de CES du nord de la France qui disait « J'ai été frappé par ces articles sur la violence. Moi, je suis dans un CES de milieu ouvrier dans le nord de la France. On n'a aucun de ces problèmes-là. Il y a 280 élèves dans mon CES. Dans les autres, il y en a plus de 1000. » L'entassement est un facteur aggravant de conflit. Hein, c'est clair. Moins on a la possibilité de connaître les autres personnellement, plus on se méfie d'eux. Plus on se sent agressé par les autres, plus on est facilement irrité par eux. Et j'ai ici une citation de René Lenoir, qui a été secrétaire d'État aux affaires sociales avant Simone Veil, et qui est un homme remarquable. Il fait remarquer un des gros problèmes des conflits et une des responsabilités des gouvernements à ce sujet. Il dit, au congrès de Monaco, qui a réuni début juillet, je crois que c'était 73, de célèbres spécialistes du comportement, le professeur Féchac a demandé que la société s'efforce de réduire d'urgence les conditions favorisant le développement des conduites agressives. Il est apparu comme démontré aux biologistes, psychologues, éthologues et cliniciens que ces conduites ne sont qu'une réaction à des circonstances extérieures, à la solitude affective, à la frustration sociale, à l'intensité des risques professionnels ou personnels, à l'agression verbale ou physique des autres. Ce qu'ils oublient de dire, c'est que ces différentes choses, agression verbale et tout ça, sont elles-mêmes des conséquences de quelque chose de plus profond qui est le péché. On peut certes tenter de modifier ces réactions, dit-il, mais l'essentiel de l'effort doit porter sur les conditions qui les favorisent. Comment nier de ce point de vue l'influence du cinéma, de la télévision, de la presse, du livre, de la publicité, etc. Mais il y a d'autres facteurs. Il y a l'ennui, par exemple. C'est un des graves problèmes de notre société, en particulier le problème du chômage des jeunes qui se sentent exclus de la société. Je lisais ce qu'écrivait un Français qui est René Dubos, qui est professeur aux États-Unis depuis longtemps et qui est plus connu là-bas qu'ici. Il disait que ce qui l'inquiète le plus dans le monde, c'est ni les conflits nucléaires, ni la pollution, bien que ce soit un spécialiste de ces problèmes, c'est le chômage des jeunes. C'est qu'il y a dans nos sociétés des milliers de jeunes qui n'ont pas de raison de vivre parce qu'on n'a pas besoin d'eux. Ils ont l'impression qu'on n'a pas besoin d'eux, que la vie est vide devant eux. L'ennui est une cause de conflit constante. Et ça, c'est une des choses qu'on remarque très rapidement. Vous avez des gens qui ne travaillent pas. C'est par exemple le cas des retraités, des personnes âgées. J'ai des amis qui travaillent dans des maisons de retraite. La moindre petite chose devient une occasion de conflit, alors que pour des gens qui sont occupés ailleurs, qui ont d'autres préoccupations, ben, on passe ça sous silence, on s'en aperçoit même pas. Moi, j'ai été frappé souvent de voir des gens me dire « Vous n'avez pas remarqué ce que vous a dit un tel, hein ? C'est quand même pas très gentil. » Parce que je pensais à autre chose, je ne l'ai tout simplement pas remarqué. Mais si vous n'avez rien pour occuper votre pensée, si vous n'avez pas un but dans la vie, alors la moindre chose prend des proportions invraisemblables. Il y a aussi un autre facteur dont il faut tenir compte, bien sûr, c'est la méconnaissance de l'autre. L'étranger, celui que je ne comprends pas, en qui je ne me retrouve pas, est davantage une menace. C'est une des causes du racisme, par exemple, et de l'antisémitisme. Il est différent, je cite ici une phrase d'une pièce de théâtre de l'auteur américain Robert Anderson, Thé et sympathie, il est différent, par conséquent, il est capable de tous les crimes. Je ne le comprends pas. Son comportement est bizarre. J'ai eu l'occasion, moi, de faire mon service militaire, hélas, en Algérie, mais dans une compagnie de tirailleurs algériens, c'est-à-dire avec une grosse majorité d'Arabes, que j'ai vus dans un contexte qui n'était pas tout à fait normal, mais chez eux, dans leur pays, quand même. Et toutes les idées préconçues que j'avais à leur sujet sont tombées. J'avais des préventions. Et la prévention, c'est la défense, hein. Et cette prévention ne tenait que sur des on-dit, parce que quand on ne connaît pas l'autre, on lui prête toutes sortes d'intentions. On interprète de travers ses gestes, ses paroles, parce que ce ne sont pas les mêmes que chez nous. Et il est évident que la société y contribue quelquefois. En cas de guerre, par exemple, l'image de l'autre est volontairement déformée. Mon père avait chez lui la collection complète du journal L'Illustration de la guerre de 14-18. C'était le Paris Match de l'époque. Mais il y a des articles où on vous parlait des Allemands, hein, dans des termes, aujourd'hui on se demande, mais est-ce que celui qui a écrit ça, et qui entre parenthèses était de l'Académie française, je sais bien que ce n'est pas une référence, mais enfin, celui qui écrivait ça, et dont je ne vous dirai pas le nom, par respect pour sa mémoire, enfin, disait des énormités, des choses absolument ahurissantes et invraisemblables sur les Allemands en général. Parce qu'en cas de guerre, il faut que l'adversaire soit un grand méchant loup, quoi. Pas de problème. Mais il est évident que pour sortir d'un conflit, quand on a dressé le portrait de l'adversaire sous cette forme-là, ou quand on s'est laissé soi-même, même s'il n'y a pas eu d'influence extérieure, former une image entièrement négative de l'autre, comment voulez-vous en sortir quand vous avez une image totalement négative et figée de l'autre ? Et ceci est aggravé par un dernier facteur qui est la difficulté de communication. Par exemple, le fait qu'on ne parle pas la même langue. Vous savez qu'on a espéré mettre fin à toutes les guerres en créant une langue commune à tous les hommes, l'espéranto. Mais je suis persuadé que dans les congrès d'espérantistes, il y a aussi des conflits. Même quand on parle la même langue, on ne se comprend pas forcément. On ne se comprend pas forcément parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Parce qu'il est possible d'utiliser une langue de telle façon que mon interlocuteur ne comprend pas. L'intellectuel, par exemple, a facilement tendance à faire mousser un petit peu ses connaissances et son vocabulaire spécialisé, son jargon, parce que ça lui donne un sentiment de supériorité sur le pauvre type qui est en face. On parle la même langue, mais on ne se comprend pas. C'est parfaitement possible. Et c'est vrai aussi pour nous chrétiens. Je me rappelle, ça remonte à plus de 20 ans, j'avais été invité dans un groupe de jeunes catholiques à parler sur la foi chrétienne, je ne me rappelle plus quel était le thème exact, dans une banlieue de Paris, et je repartais par le train, et prenant le même train, il y avait deux des jeunes qui avaient assisté à la réunion, une jeune fille catholique et son fiancé qui était d'un milieu totalement irreligieux. Et en attendant le train, le fiancé m'a dit « Je crois que j'ai compris ce que vous voulez dire intellectuellement, mais pour moi c'est du chinois tout ça. Quand vous parlez de Dieu, je comprends les mots, ça ne veut rien dire pour moi. Tous les mots que vous employez, ça n'évoque rien dans mon esprit. Vous comprenez ? On parlait bien la même langue. Il comprenait mon français. Hein, je ne crois pas avoir utilisé un jargon de théologien spécialement. Mais ce n'était pas pareil. Je me souviens d'avoir lu quelque part aussi un sociologue, philosophe français, monsieur André de Peretti, qui rapportait un colloque sur l'information. Remarquez bien le sujet, un colloque sur l'information. Il disait qu'il y avait 100 personnes avec des idées toutes différentes, tous des spécialistes de l'information, mais personne ne parlait de la même chose, personne ne voulait la même chose, et le congrès d'information était fait de malentendus, de conflits et d'affrontements. Ce sont des choses qui arrivent très souvent dans la vie humaine. Je voudrais aussi dire une chose, c'est que nous sommes dans une situation de péché, dans un monde pécheur, dans un monde où tout est faussé. C'est-à-dire que l'équilibre, l'harmonie n'existe pas de façon permanente. Et que toutes nos démarches, nos rencontres sont des ruptures et des rétablissements d'équilibre, plus ou moins réussis, souvent tout à fait ratés. Il y a des gens qui se cassent carrément la figure. Mais dans une telle situation, le conflit n'est pas forcément quelque chose d'entièrement mauvais. Le conflit peut jouer un rôle utile et positif s'il est résolu autrement que par la négation ou la destruction d'une des parties. Un conflit résolu par l'amour, mais là aussi, quand on dit l'amour, c'est comme quand on parle du péché, hein. Il faut voir ce qu'on met derrière. Il faut essayer d'être plus précis. Mais un conflit résolu par l'amour peut créer une paix, une unité plus forte que celle qui existait avant. L'amour, voyez-vous, ça n'est pas une situation d'équilibre, mais c'est le rétablissement d'un déséquilibre. Ça n'est pas le prochain, c'est pas celui qui est collé à moi et qui n'en bouge pas, c'est celui vers qui je reviens toujours, quoi qu'il arrive. Quelqu'un a défini l'amour comme la force qui réunit ce qui était séparé. Et un conflit qui permet à l'amour de s'exercer, de prendre conscience d'une séparation pour la vaincre, un tel conflit peut avoir joué un rôle utile. Je crois que notre maturité dépend de la solution apportée à toutes sortes de conflits. Le progrès dans l'amour conjugal d'un couple, ça n'est pas de se regarder dans les yeux du premier jusqu'au dernier jour, c'est de vivre côte à côte, de s'affronter et de surmonter ces affrontements pour se rapprocher l'un de l'autre et être unis davantage que si on n'avait pas senti qu'il y avait des choses qui nous séparaient ou qui risquaient de nous séparer. Il faut voir l'amour aussi dans une perspective dynamique, comme une force qui s'exerce sur une force contraire. Et c'est pourquoi le terme biblique, un terme biblique qui est souvent utilisé pour parler de notre salut et qui est aussi un des termes clés du monde du conflit, c'est celui de réconciliation. Mais il n'y a réconciliation que quand il y a eu séparation. Et la même chose est vraie d'ailleurs du mot « justice » dans la Bible. Je crois que c'est un mot que nous comprenons mal, notre langage. Et là, les juristes seront peut-être déçus, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. La justice dans la Bible a un autre sens, je crois, que dans le code civil ou pénal français. La justice dans la Bible, c'est l'intervention de Dieu pour réparer ce que le péché, l'injustice des hommes a cassé. Il est souvent question de rendre la justice. Le verbe rendre est intéressant. On rend la justice, c'est-à-dire on rétablit une relation d'harmonie et de paix là où elle avait été brisée. On rétablit la justice. Un exemple typique dans le Nouveau Testament, c'est la parabole sur la prière de Luc 18, la parabole de la veuve importune, qui vient trouver le juge et qui lui dit « Rends-moi justice de ma partie adverse. » Elle est privée de justice. Le rôle du juge, c'est de rétablir la justice dans une situation où elle est brisée. Un conflit, c'est toujours une situation où chacun se sent victime d'une injustice. S'il n'y en avait qu'un qui se sentait victime d'une injustice, on pourrait facilement le résoudre. Malheureusement, chacun se sent privé de quelque chose. Et il faut rétablir ce à quoi il estime avoir droit. Mais en fin de compte, il n'y a que l'amour qui peut le faire. La justice est un des composants fondamentaux de l'amour. C'est vraiment la capacité de rendre ce à quoi l'autre a droit, ce que l'amour lui doit, en quelque sorte. de réparer une situation cassée, de rétablir quelque chose qui a été déséquilibré et qui est perdu.